Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, le printemps est là, fleuri et ensoleillé, mais tous les états-majors politiques ont déjà l'esprit tourné vers les présidentielles de 2017, à droite comme à gauche. Ben c'est le flou le plus total. On ne sait pas si François Hollande va se représenter, peut-être pas, même si, évidemment, en sourdine, ses proches sont en train de préparer cette candidature. Beaucoup à gauche réclament des primaires. À droite, les primaires auront bien lieu l'hiver prochain. Et si, pour l'instant, c'est Alain Juppé qui caracole en tête des sondages, ben rien ne dit qu'en décembre, il en sera de même. Peut-être que ce sera François Fillon, Sarkozy, Bruno Le Maire. Cette foire d'empoigne nous promet une campagne échevelée, mais... D'aucuns pensent que le temps est venu de rompre avec une certaine façon de faire de la politique, en s'appuyant notamment sur la société civile. Alors on a vu que c'est le cas à gauche d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui vient de créer son propre mouvement. C'est aussi le cas à droite et au centre, de celui avec qui nous allons passer la prochaine demi-heure, peut-être un peu plus, peut-être on va mordre. J'ai nommé monsieur le député maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge. Monsieur Gorge, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler ensemble de l'état de la France. C'est un état qui vous préoccupe. Vos newsletters en attestent. Et peut-être allez-vous nous en dire davantage sur vos propres ambitions, car vous estimez avoir des solutions pour notre pays. Alors, pour chaque problème, je vous demanderai de nous donner votre diagnostic et peut-être votre remède, si vous en avez un. La première question, elle est brutale. Pensez-vous que la France soit en faillite, pour reprendre les termes utilisés par François Fillon il y a déjà pas mal d'années?
Non, parce que la France est un pays riche. D'ailleurs, pour faire autant de bêtises, il faut vraiment être riche. Et en fait, vous savez, la dette... Je travaille sur la dette en ce moment. Je suis dans une mission d'évaluation de contrôle sur la dette française. Vous voyez, son origine, comment elle est gérée et les risques sur la dette. Et en fait, bon, la dette réelle de l'État, c'est 1 760 milliards. On dit 2 200 milliards, mais en fait, il y a une partie, c'est les collectivités. Et ça, c'est remboursé puisque les collectivités payent leur dette. Mais sur les près de 1 800 milliards, si vous voulez, quand vous ramenez ça à l'actif des Français, c'est 12 000 milliards. Et l'actif financier, c'est-à-dire vraiment liquide des Français, c'est 4 500 milliards. Donc, il n'y a pas de quoi avoir énormément peur. Non, ce qui est inquiétant, c'est que la France ne présente plus des comptes en équilibre. Une dette, vous savez, si elle est constituée d'investissements, des investissements productifs, il faut en être fier. Regardez, c'est ce que fait la ville de Chartres. Elle a une dette, mais pour faire des équipements, un certain nombre de choses qui font que la ville se développe. Et la ville présente des comptes en équilibre. Le problème de la France, c'est qu'elle n'arrive plus depuis 40 ans à présenter des comptes en équilibre. Donc ça ne veut pas dire que c'est en faillite. C'est mal géré. Et je pense que les gens qui sont aux commandes depuis 40 ans ont fait des grosses bêtises.
Cette dette, comment peut-on en venir à bout? Elle nous pourrit un peu la vie, quand même.
Oui, mais c'est facile d'en venir à bout. Regardez, moi, je me rappelle, en 2001, la ville de Chartres est quand même dans une situation un peu difficile. Donc, ça peut pas être immédiat, parce que celui qui dit « j'ai la solution, je tape dans les mains », il faut le mettre tout de suite aux commandes. Non, c'est des processus un peu lents par rapport à la situation de la France, mais il y a tellement de choses qui sont mal organisées qu'il existe une multitude de solutions pour revenir à l'équilibre. Alors, bon, moi, ce que je dénonce régulièrement, et vous le voyez dans mes tribunes, pas dans mes newsletters, il faut dire ça en français, dans mes tribunes, c'est que ce pays jacobin regarde la France avec une longue vue mise à l'envers. Vous voyez, c'est ces gens qui voient ça de loin, vous savez, ils sortent de l'ENA, hein, et aussitôt qu'ils sont sortis de l'ENA, ils écrivent un livre en disant « voilà, j'ai la solution ». Ils rentrent dans des ministères comme conseillers, puis ensuite vous les voyez candidats dans des élections législatives, ensuite être ministre, prétendre être président de la République. Ceux-là, ils n'ont jamais touché la vie réelle, et ils regardent le monde de loin, et de Paris, et en fait, il y a énormément de choses à faire dans un contexte décentralisé, mieux organisé, et c'est ce qu'on fait, en fait, à Chartres tous les jours, on essaye de reprendre nos compétences, être au plus proche, rapprocher la décision du citoyen, vous voyez. Je prends un exemple simple. Monsieur Peillon, quand il fait la réforme des rythmes scolaires, on voit que ce monsieur n'a jamais été soit parent, hein, il saurait ce que ça veut dire, soit élu local, il aurait compris comment marche une école. Il nous fait un texte qui marche pas, qui pénalise tout le monde. Voilà. Donc, depuis 40 ans, eh bien, ça s'est accumulé. Et maintenant, on a une politique qui est professionnalisée, fonctionnarisée. Les gens s'embêtent plus, hein. Ils font pas le terrain comme je fais moi, hein. Ils partent directement comme apparatchik dans un parti politique, hein. Ou alors ils sont de la fonction publique, ils se présentent à une élection parce qu'ils se sont mis sous une étiquette, ils sont détachés, puis voilà, et ils se retrouvent députés, et puis certains, bah, ministres, parce que dans la foulée, eh ben, à partir du moment qu'ils sont des députés obéissants, ils pourront être ministres. Voilà, la France d'aujourd'hui.
Vous dites qu'il est important pour un maire d'être député, mais que être député sans être maire.
Oui, non, pour un maire, c'est pas. Je trouve que pour des villes comme les nôtres, c'est intéressant que le maire soit député, parce que le député peut titiller le ministre, et puis et comme ensuite le ministre a besoin des maires, vous voyez, la boucle se ferme. Par contre, un député qui se retrouve à l'Assemblée nationale sans avoir eu un peu de responsabilité, soit dans la société civile, soit d'avoir été élu local. Je m'interroge. Et aujourd'hui, regardez le CV des ministres et des prétendants. Moi, ce qui me fait bondir, c'est les prétendants. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par la société civile. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus local. Et puis, il y en a encore moins qui ont été les deux. Moi, par exemple, j'ai le double profil. Vous voyez ?
Je vous ai entendu dans une vidéo dernièrement où vous dites que vous êtes vraiment heurté, quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale, heurté au système. C'est là où vous avez finalement perçu à quel point le système était verrouillé, d'une certaine manière.
Bien sûr. Moi, vous savez, les gens disent « Gorge, il n'est pas du sérail. Gorge, on le comprend pas. Gorge, on peut pas le contrôler. » Alors déjà, dire ça, c'est vrai qu'ils ont raison là-dessus. Mais si vous voulez, quand vous venez de la société civile, vous avez des codes différents. Vous n'abordez pas les problèmes de la même façon que quelqu'un qui est devenu un professionnel à la politique. Donc, mon discours, ma manière de faire peut choquer, mais vous savez, au bout d'un moment, quand je suis dans un groupe, les gens commencent à mieux comprendre la réalité des choses. Je le vois parce que je fais beaucoup de missions d'évaluation de contrôle, je fais des commissions d'enquête. Et là, je pense apporter beaucoup. Et d'ailleurs, je m'y intéresse parce que dans les autres cadres, c'est très difficile. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir que ma voix peut être dissonante, quoi. Mais j'insiste, je persiste, hein. Vous savez, ça fait 14 ans que je suis député. Je suis à la commission des finances. On me reconduit à chaque fois, donc il doit y avoir quelque chose. Donc un fond qui n'est pas trop mauvais.
Vous avez réussi à rétablir les finances de la ville sans que les Chartrains en souffrent. Est-ce que c'est possible de le faire au niveau national ou est-ce que les Français doivent s'attendre à des nouveaux sacrifices si on veut enrayer la dette ?
Des nouveaux sacrifices, dans tous les cas, bon, à partir du moment où vous êtes en déficit, si vous voulez revenir à l'équilibre, ben, il faut réorienter les choses. Alors c'est pas plus souffrir. Vous savez, s'il faut payer un petit peu plus d'impôts, pas n'importe quel impôt, mais pour que tout le monde ait du travail, ça peut aussi se transformer en de la solidarité. Aujourd'hui, vous avez des impôts qui sont mal répartis, vous avez des impôts qui ne sont plus productifs. Vous savez, on dit trop d'impôts tue d'impôts. Et bien, à côté de ça, vous avez 5 millions de personnes qui n'ont pas de travail. Donc, le plus dur, vous savez, tout le monde souhaiterait payer des impôts. Le problème, il y a des gens qui ne peuvent pas payer d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au RSA, ils n'ont pas de revenus. Et ça, c'est dramatique. Donc, le système qui est en place n'est pas vertueux. Puisque plus on augmente la dette, plus on augmente les déficits, plus on a de chômeurs. Donc c'est quand même facile de comprendre que, vous voyez, chez vous, dans votre famille, si vous aviez le même phénomène, vous auriez arrêté les choses bien avant. Là, aujourd'hui, on a une dette qui s'amoncelle et on ne règle pas le problème du chômage, du confort de vie des habitants, de sécuriser les habitants. Donc il y a vraiment un problème de fond.
On va parler justement de l'emploi. Vous avez amorcé sur ce sujet. Le gouvernement a pris des mesures pour l'emploi. Sont-elles bonnes ? Alors, les derniers chiffres du chômage le laissent penser. Est-ce que ça, c'est un cache-misère ?
Non, vous savez, pour l'emploi, d'abord, la loi El Khomri, elle n'est pas votée. Donc, c'est pas elle qui a pu provoquer des modifications de chiffres. Je pense que les chiffres sont complètement pipés, truqués. Sur le chômage, un jour, on parle de la catégorie A, de temps en temps la B, la C. Donc, les gens ne savent pas ce qu'il y a dans les catégories. Et s'il y en a une qui s'améliore, c'est elle qui est présentée. Donc, ça, c'est inadmissible de faire ça. Mais comment pensez-vous qu'une économie peut avoir un mois 50 000 chômeurs de plus et le mois suivant 60 000 de moins? Ben, c'est impossible. Vous savez très bien que c'est pas le cycle de vie de l'économie. Donc, rien qu'oser faire ça, Moi, je trouve que ce gouvernement, d'ailleurs, abuse un peu. Donc, alors maintenant, des mesures, il y en a un certain nombre de qui ont été mises en place, mais qui sont trop complexes pour ça apporte des résultats. La loi El Khomri, au départ, c'est une loi qui est intelligente, intéressante. D'ailleurs, en 2007, c'est ça qu'aurait dû proposer la droite plutôt que l'article 1 TEPA, la bonification des heures supplémentaires. Et la droite n'a pas eu le courage de le faire. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la gauche qui propose ça. Alors, moi, je peux pas être contre ça, puisque dans une mission d'évaluation de contrôle, j'ai proposé la même chose. J'ai proposé de libéraliser justement la relation entre employé et employeur, un certain nombre de mesures, le compte épargne-temps, que le temps de travail soit décidé au niveau de l'entreprise, un certain nombre de choses de ce type-là. J'ai fait une commission d'enquête sur les 35 heures qui allait dans le même sens. Donc, sur le fond, je peux pas être contre sur des choses que j'ai proposées. Maintenant, vous voyez, entre le moment où Madame El Khomri, d'ailleurs, c'est le président de la République qui a dû la porter, propose cette loi, et tous ceux qui s'y opposent, et dans le camp de celui qui le propose, parce que ça semble être en contradiction avec son programme, eh bien, à la fin, cette loi va être complètement dénaturée. On va y mettre un certain nombre de choses dedans, et à la fin, ça va être la loi de la CGT, la loi de Nuit Debout. Et donc, on peut plus voter cette loi. Et donc, on arrive à une situation aberrante, c'est que du côté gauche, un certain nombre de champs qui font défaillance, donc qui pourront pas l'assurer par la gauche. La droite, qui aurait pu arriver en complément, ne peut pas la voter parce que sinon, elle va valider un certain nombre de choses qui vont dans le mauvais sens. Donc en fait, on rend les choses impossibles. Et ça, c'est l'art de gouverner de M. Hollande. Il faisait ça au Parti Socialiste. Et après, il se propose de faire une synthèse, mais pour le moment, il met le pays dans le chaos. Et accepter ce qui se passe avec Nuit Debout à Paris, hein, vous voyez, il y a d'autres manifestations qui ont été réprimées plus fortement que ça, eh bien, on sent que c'est un pays qui n'est plus maîtrisé. Donc ça commence à poser problème, oui.
La violence qu'on voit tous les jours, enfin tous les soirs dans la rue, ça vous inquiète? On a l'impression d'un climat presque insurrectionnel.
Oui, parce qu'on sent que l'autorité n'est plus respectée. Vous savez, il y a un critère. Vous savez, la justice, la police, la sécurité, en fait, n'ont pas les moyens d'assurer tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous avez une dépense publique qui est assez colossale, mais fait 57% du produit intérieur brut. Mais il y a seulement 5% affectés dans cette dépense publique aux fonctions régaliennes de l'État. La justice, la sécurité. Et donc, ces gens-là n'ont pas les moyens d'assurer tout ça. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment des problèmes de déséquilibre financier? Un pays comme la France, digne de ce nom, devra déjà faire en sorte que ce qui est régalien soit tenu. Et moi, je vois bien, hein, puisque je suis quand même en proximité, je vois le travail fait tous les jours pour les services de police, la gendarmerie, les magistrats. On leur demande... énorme. Il y avait une comparaison récente, ces procureurs qui disaient que sur le ressort de León, en Espagne, qui est à peu près celui de l'Eure-et-Loire, avec le même type d'activité, ils ont 4 fois plus de moyens qu'en Eure-et-Loire. Alors, ils en ont peut-être 2 trop, mais nous, on a certainement pas assez. Donc voilà. Ça, ce n'est plus assuré. Donc, alors, et puis, on a l'impression que c'est un État qui renonce. Eh bien, vous savez, les gens, ils le sentent, ça. Hein. Donc, s'ils le sentent, eh bien, chaque jour, ils essayent d'aller un petit peu plus loin. Et vous voyez bien que c'est un désordre national en ce moment.
On se dit que Marine Le Pen doit se frotter la main. Elle n'a même plus besoin de parler.
Oui, et elle a compris qu'il lui suffisait de se taire. C'est ça qui est inquiétant. Marine Le Pen, tant qu'elle parle, c'est sympa, parce que les gens voient bien que l'offre n'est pas forcément aussi alléchante qu'il n'y paraît. Mais là, son silence est assourdissant. Parce que elle a rien à dire. Chaque jour, vous allumez la télévision et elle engrange. Et j'ai un petit peu peur, comme ça s'est passé au régional, qu'en 2017, eh bien, ça soit très très difficile. Déjà, tout le monde fait la compétition pour être deuxième au premier tour. Vous voyez comment ils ont renoncé. À droite comme à gauche, les gens à droite disent, de toute façon, il suffit de gagner la primaire à droite pour être président de la République. Parce que quand on gagne la primaire, ensuite on sera deuxième au premier tour, et le deuxième au premier tour, et premier au deuxième tour. Voilà. Voilà la France d'aujourd'hui.
Une sorte de démission collective.
Oui. Moi, je n'accepte pas ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça.
On va parler de développement économique. Le développement économique de notre pays tarde à se manifester. Toute petite croissance. Je me dis qu'il y a quand même pourtant des talents, il y a des savoir-faire. Il y a une France des bonnes nouvelles, pour reprendre les termes de Michel Godet. Là, comment la faire émerger, celle-ci?
C'est difficile, parce que ces gens-là, les créatifs, n'y croient pas. Vous savez, quand Vous êtes suspecte. Celui qui gagne de l'argent dans ce pays est suspecte. Donc ça pose un problème. Hein. Et bon, on a l'impression que avec la fiscalité, tout ce qui a été fait, on a réduit les écarts. Non, les riches s'en vont. Attali le dit mieux que moi. Hein. Les riches sont déjà partis. Ceux qui ont du potentiel sont en train de partir. Donc un jour, il y aura dans ce pays la révolte des assistés. Vous voyez, ceux qui attendent. Donc ça pose problème. On n'encourage pas les meilleurs. Les meilleurs dans entre nous, hein, je mets bien cette expression, les meilleurs d'entre nous à tirer le pays par le haut. Donc il faut réinventer ça. Et c'est pour ça que trop d'impôts tue l'impôt. On a des régimes fiscaux qui sont confiscatoires. Moi, je pense que un certain nombre de choses, c'est de la solidarité nationale. Tout le monde doit contribuer. Je vois pas pourquoi la famille, ça serait payé par l'entreprise. Maintenant, c'est l'entreprise qui doit tout payer. Comment est-ce possible? C'est impossible. Vous êtes dans un pays de 65 millions d'habitants, il y a 25 millions d'actifs, dont 6 millions de fonctionnaires. Comment voulez-vous que les 19 millions fournissent toute la solidarité des 65, hein, avec des retraites qui vont être difficiles à payer, puisqu'on vit plus longtemps, heureusement. Donc il faut trouver d'autres solutions. Il y en a. Il y en a.
Alors, quelles sont ces solutions? Alors, s'il y a 2-3 mesures à prendre en urgence?
Moi, je ne vais pas vous les dévoiler parce que je voudrais perturber un peu cette élection de 2017, montrer que tous ceux qui se présentent, qui ont déjà échoué, ils ont échoué tous. Ils étaient là entre 2007-2012 ou avant. Et puis, ceux qui vont se représenter aussi, ils sont aux commandes aujourd'hui. Donc, est-ce que... vous savez, les mêmes causes donnent les mêmes effets. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ils seraient plus créatifs qu'avant. Ils auraient plus de courage, parce que ce qui manque, c'est le courage politique. Donc moi, je vais essayer un peu de les taquiner. Je n'ai pas voulu m'engager dans une primaire, quelle qu'elle soit, de gauche, de droite ou même citoyenne. Parce que maintenant, vous avez vu, il y a des primaires citoyennes. Donc les partis citoyens qui critiquent les partis classiques de droite et de gauche, ils inventent les mêmes procédures, avec des conditions encore un peu plus strictes. Donc vous voyez que tout le monde tombe dans le même péché. Donc voilà, donc il va falloir trouver l'angle pour perturber cette élection 2017, pour montrer qu'il y a d'autres voies possibles.
On y viendra tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on parle, parce que j'ai vu aussi que, pour moi, Jean-Pierre Gorche, c'était quand même avant tout l'économique. Et je me suis aperçu, en regardant cette vidéo l'autre jour, que vous étiez très intéressé par d'autres sujets et que l'économie n'était pas suffisante. C'est pourquoi je vous interroge sur d'autres sujets. Et je voulais qu'on quitte le terrain de l'économie pour parler de l'immigration. Je sais que la question vous taraude. Donc, dans cette vidéo que j'ai pu voir sur YouTube, qui était destinée aux adhérents du mouvement Nous Citoyens, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, vous dites que pas plus la droite que la gauche n'arrive à mener une politique migratoire responsable, quoi, digne de ce nom. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à leur place?
Si vous voulez, moi je pense que on est arrivé à un stade où il va falloir faire attention. Il y a un chiffre qui est intéressant. Dans les 10 dernières années, il y a eu 5 millions d'habitants de plus. Voilà. Mais pas un emploi créé de plus. Comment peut-on fonctionner? On a 5 millions d'habitants de plus et pas un emploi de plus. Quand vous regardez les problématiques de santé, on voit qu'on a des difficultés pour assurer la santé. Sur le logement, on n'arrive pas à fournir tous les logements qu'on doit fournir. Donc il y a quand même un problème. Donc vous voyez bien que la démographie d'un pays, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir où on va. Si vous voulez un pays à 50 millions d'habitants, vous organisez pour 50 millions d'habitants. On est 65. Donc si l'objectif c'est 50, comme ça pourrait arriver à l'Allemagne, eh bien donc c'est pas les mêmes problématiques à mettre en place que si vous avez un pays que vous contrôlez pas, qui va arriver à 100 millions. Vous voyez ? Donc la démographie, ça doit être quelque chose qui est maîtrisé par les politiques. Et une fois que vous avez des idées de démographie, vous pouvez définir une politique de la famille et puis faire un certain nombre de choses autour de ça. Et l'immigration, elle est normale, naturelle, nécessaire. Hein, comprenez, hein. Ça, c'est des choses... Mais derrière, ouvrir des robinets massivement comme ça, puis les refermer où personne n'y comprend quoi que ce soit, eh bien, c'est pas possible. Donc je pense que ce pays a besoin de faire le point pendant une certaine période pour voir si les moyens sont ajustés à ce qu'on souhaite. Et manifestement, non. Non. Moi, je suis maire d'une ville, je vois bien, où on a nos faiblesses, où il faut faire des efforts. Et aujourd'hui, on a l'impression de gérer une population trop importante par rapport aux moyens que l'on a.
La politique migratoire, c'est une chose. Il y a la politique d'intégration qui doit suivre aussi. On a l'impression que là, alors là c'est un peu la cata ici, non ?
Ben, la cata, vous savez, quand vous avez des ministres du logement qui disent il suffit de créer des logements, mettre des gens dedans, les gens ils gèrent des boîtes, ils gèrent pas les gens. Regardez ce qu'on fait à Chartres. Vous avez vu la transformation des quartiers entiers qu'on casse et les gens qu'on répartit correctement. C'est-à-dire que on fait pas de discrimination, de dire bah là c'est telle catégorie de population qu'il faut mettre, là les riches, les pauvres, là les blancs, là les noirs. Ça n'a pas de sens, ça. Donc à Chartres, je pense qu'en 15 ans, on a montré que c'était possible. Mais c'est du long terme. Et vous voyez bien qu'il peut y avoir un problème entre le temps politique et le temps du projet. Pour transformer un quartier comme Beaulieu, il me faut 20 ans, au moins 20 ans. Vous voyez ? Et donc, si je fais un mandat, je commence, mon successeur, il dit, mais attendez, c'était pas bien, ça. On va changer de plan. Et on change de plan tout le temps. Dans la vie, un plan moyen mené jusqu'au bout a plus de chances de donner des résultats que des plans qu'on change en permanence.
Ça, voilà. C'est la maladie française aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Donc, déjà, peut-être que le temps politique, il faut le rallonger. Il faut le rallonger, peut-être. Mais il faut de la suite dans les idées. Mais en fait, ce problème est mal pris. Et l'intégration, c'est pas que de refaire des logements. C'est tout, partout, partout. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de classification des individus. J'ai entendu parler à un moment donné d'immigration positive. Non, comment on les trucs ? Choisie. Immigration choisie. Non, mais vous vous rendez compte, le terme. C'est-à-dire qu'on choisit les individus, on fait du tri. Donc ça, c'est pas supportable, quoi. Ben, c'est avec ce type de formule que on crée des clivages dans le pays.
Ouais. Deux mots sur l'état d'urgence qui devrait être prolongé, évidemment, pendant l'Euro de football. Vous êtes un libéral convaincu et, comme tel, soucieux des libertés individuelles. On vient de le comprendre, d'ailleurs. Est-ce que ça vous embête, cet état d'urgence, ou est-ce qu'il faut quand même en passer par là, selon vous ?
Mais non, mais moi, si vous voulez, je vais vous dire, c'est pire que ça. Un pays digne de ce nom, il doit être en état d'urgence permanente. On n'a pas à faire une loi pour dire... Vous vous rendez compte ? On est obligé de faire des lois pour dire que maintenant, on va travailler dans la sécurité. Regardez, le lendemain des événements du Bataclan... on déclenche des perquisitions administratives, parce que l'état d'urgence permet ça. Et là, on en fait 3200. On trouve des armes partout. Mais ces 3200 lieux qui ont été visités, on les connaissait. Ils ne sont pas allés les voir comme ça par hasard. Ça veut dire qu'en temps normal, on laisse faire. Voilà. Et il faut que le Parlement décide qu'il faut agir. Moi, je m'en fous de quel type de renseignement, on fait des lois sur le renseignement, que j'ai pas à définir quel type de renseignement il faut pour protéger le pays. À l'État de nous garantir d'être en sécurité. Et s'il faut passer par des manières fortes, c'est aux politiques de prendre des décisions. S'ils font des choses mauvaises, ils se trompent, ben, ils auront des problèmes vis-à-vis des citoyens. Mais on peut pas fonctionner comme ça. Vous voyez les débats que ça fait. Alors le président de la République, il pense qu'en mettant la déchéance de nationalité dans la Constitution, qu'on va régler les problèmes. Vous allez faire de la déchéance de nationalité pour des gens qui se font exploser. Comment ? Vous recollez les morceaux pour leur dire « Vous n'êtes plus français ?» Ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'ils soient dans l'action. Et moi, je pense qu'on est dans un état d'urgence permanent. Voilà. Donc là, vous voyez, il va y avoir encore débat. Parce qu'avec l'euro, on dit « Est-ce qu'on prolonge ? On prolonge pas. » Mais comment peuvent-ils faire autrement ? Vous imaginez ? Donc je souhaite que l'euro existe. C'est une vraie fête européenne. Si on renonce là-dessus, ben c'est céder aux terroristes. Maintenant, ben, qu'ils mettent en place toutes les mesures pour le faire.
Voilà, la première partie de cet entretien avec Jean-Pierre Gorge, député-maire de Chartres, est terminée. Rendez-vous dans 4 semaines pour la seconde partie de cet entretien qui s'avère intéressante, voire très intéressante, puisque Jean-Pierre Gorge lèvera largement le voile sur ses ambitions pour les mois à venir. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour une nouvelle édition d'Écho de ma commune et de mon canton. Thank you.
si plein de vie. De retour sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies. Après ces longues années de guerre, le ciel est témoin qu'aujourd'hui, c'est grande joie pour la ville entière d'ouvrir ses portes à grand bruit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits. Forêt de vos bannières souffle un bon vent claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon noble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Je m'en vais porter en terre, au fond de notre vieux pays. Il y a de la douce aux cheveux clairs, dont je ne sais trouver l'oubli. Elle dormira comme en prière, du plus beau marbre que l'on vit. La plus belle des lumières de vos églises si jolies. Votre lumière, où nous nous sentions si petits.